Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Voici le deuxième épisode de l'histoire du pianiste Władysław Szpilman qui a inspiré le film de Roman Polanski. L'histoire donc d'un jeune pianiste polonais de 18 ans, enfermé pendant la guerre dans le ghetto de Varsovie avec toute sa famille. Histoire que je tire directement du livre qu'il a écrit juste après la guerre, édité en France par Robert Laffont et que vous trouverez désormais chez Pocket. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec l'historien Jean-Yves Potel, qui est un spécialiste de l'Europe centrale et de la Shoah. Dans le premier épisode, Władysław fait le choix de rester à Varsovie quand les Allemands envahissent la Pologne. Il est le témoin de la construction du ghetto juif et des exactions commises dans le ghetto par les nazis. Les Allemands viennent d'annoncer la réinstallation, c'est-à-dire la déportation, des habitants du ghetto. Voici le deuxième épisode. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au début, la mission de rafler les habitants du ghetto est confiée au seul policier juif, dirigé par trois sous-fifres des bourreaux nazis. Et les policiers juifs, quand ils découvrent des malheureux qui se sont cachés au lieu de descendre dans la cour comme les autres, ils veulent bien fermer les yeux, mais seulement en échange d'argent. Ni les larmes, ni les supplications, ni les cris terrorisés des enfants ne leur font quoi que ce soit. Dans les jours suivants, arrivent les miliciens de Lituanie et d'Ukraine. Ils sont aussi corrompus que les policiers juifs. Comme eux, ils acceptent de l'argent. Mais eux, juste après, ils liquident celui qui vient de les soudoyer. Parce qu'ils aiment tuer. Ils aiment tuer pour le sport, pour se simplifier la tâche, pour s'exercer au tir, pour le plaisir. Ils abattent les enfants devant leur mère. Et ils jouissent après du spectacle de ces femmes rendues folles par le chagrin. Ils tirent dans le ventre de simples passants pour contempler leur atroce agonie. Et parfois, ils placent leurs victimes en ligne, ils s'écartent et ils jettent des grenades, histoire de voir qui est le plus précis. Les nazis ont trouvé une nouvelle idée. Ils l'expliquent sur des affiches qu'ils ont placardées. Toutes les familles qui se rendront de leur propre volonté sur la place pour émigrer, recevront une miche de pain et un kilo de confiture par personne. Et ils promettent que les familles ne seront pas séparées. Un grand nombre d'habitants du ghetto sautent sur cette occasion. Parce qu'ils ont faim et parce qu'ils veulent, coûte que coûte, rester avec leurs proches. Nous nous en sortons en travaillant au service des Allemands. Un ami nous trouve du travail au dépôt où le mobilier et les objets personnels des Juifs qui ont émigré est trié. On se retrouve à déplacer des meubles, des miroirs, des tapis, des draps, des vêtements. Et en échange, on nous donne un logement de fonction dans lequel nous déménageons immédiatement. Et on nous donne une demi-miche de pain et un quart de soupe par personne et par jour. Au début du mois d'août 1942, ils décident d'évacuer les orphelins du ghetto.
Vous allez mettre vos plus beaux habits, les enfants. Hein? Et on va vous emmener faire une excursion à la campagne. Vous allez pouvoir sortir des murs du ghetto. Hein? Et voir des prairies en fleurs, des ruisseaux. Vous pourrez vous baigner. Et aller cueillir des champignons, hein? Et ramasser des groseilles.
Et je les vois partir. Une petite colonne, emmenée par un SS, avec le philanthrope qui s'occupait d'eux et qui a demandé à partir avec eux. Et je suis certain que plus tard au camp, quand le cyclone B commencera à attaquer leurs poumons, papy docteur comme il l'appelait, leur a dit jusqu'au bout.
Tout va bien, les enfants. Tout ira bien.
Et puis notre tour vient, le 16 août. Notre immeuble est encerclé. Coup de sifflet dans la cour. Inutile de lutter. J'ai fait ce que j'ai pu jusque-là, mais c'était une entreprise vouée à l'échec. Heureusement, seule ma sœur Alina et mon frère Henrik ne sont pas là. Alors on s'habille à la hâte. Ma mère rassemble quelques affaires dans un petit baluchon et nous nous engageons dans l'escalier. On se retrouve donc sur l'Umschlagplatz, une esplanade desservie par des voies ferrées, avec dans un coin un espace qu'on évite soigneusement, mais vers lequel nos regards ne cessent de revenir. Des cadavres alignés, ceux qui y ont été tués la veille. Des hommes surtout, mais pas seulement, il y a aussi une femme et deux petites filles avec le crâne ouvert, assassinées selon une méthode qui est chère aux nazis, tenues par les jambes, la tête projetée contre les briques. Et donc on s'installe pour attendre le train. Ma mère est assise sur son baluchon. Ma sœur Regina est accroupie près d'elle. Moi, debout. Et mon père fait les 100 pas, les mains dans le dos. Et des camions qui arrivent en permanence et qui déversent leur cargaison humaine. Des gens désespérés, qui sanglotent, mais qui sont vite gagnés par la chape de plomb qui règne sur cette esplanade. Je décide d'aller marcher un peu. Je croise des vieillards d'une maigreur affreuse, à bout de force, et des femmes avec leurs bébés dans les bras.
« Vous auriez un peu d'eau, s'il vous plaît ? Juste quelques gouttes. »
Les petits, leurs petits, ont déjà le regard mort. Quand je rejoins mes proches, ils ont de la compagnie. Une amie de ma mère et son mari et une de leurs relations, un dentiste, très en colère. En grande conversation avec mon père.
C'est une honte pour nous tous. Une honte. Nous les laissons nous conduire à la tuerie, comme des moutons à l'abattoir. Nous devrions attaquer les Allemands. Nous sommes quoi, un demi-million ici? On pourrait libérer le ghetto. En tout cas, on pourrait mourir dignement. Au lieu de laisser une page aussi honteuse dans l'histoire. Mais comment êtes-vous sûr qu'il nous envoie à la mort? J'en suis absolument certain, évidemment. Mais à mon avis, il y a 90 chances sur 100 qu'ils aient l'intention de nous liquider. Je n'en suis pas absolument certain, évidemment. Vous avez raison. Mais à mon avis, oui, je dirais qu'il y a 90 chances sur 100 qu'ils aient l'intention de nous liquider. 90 chances sur 100, oui.
Mais mon père reste convaincu que les Allemands ne sont pas assez stupides pour dilapider la force de travail que les Juifs représentent. Il pense, lui, qu'on va nous amener dans des usines, de grands chantiers, mais pas à la mort. Quelques heures plus tard, arrive une nouvelle masse d'évacués, parmi lesquels ma sœur Alina et mon frère Henrik. Quand ils ont appris qu'on avait été raflés, ils se sont portés volontaires. Mais quelle bêtise! Nous voilà donc au complet. Et les heures passent, et la foule continue de grossir, avec en bruit de fond les tirs et les hurlements de ce qu'on est en train d'arrêter. À un moment, un petit garçon arrive vers nous. Il a une boîte de bonbons accrochée autour du cou avec une ficelle. Il les vend à un prix absurde. Mais on réunit nos dernières pièces et on lui en achète un bonbon,
un caramel. Mon père le coupe en six avec son couteau. C'est le dernier repas qu'on a pris tous ensemble. Juste après, le cordon de policiers juifs et de SS déployés autour de l'esplanade se met à avancer en se resserrant vers le centre et en tirant en l'air pour nous effrayer. Alors, on s'approche du train. Le train sans le chlore. Qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans pour qu'il ait fallu le désinfecter à ce point? Et soudain...
Hé, Spielmann! Par ici, Spielmann, par ici!
Et là, quelqu'un m'attrape par le collet et me tire derrière le cordon de policiers. Je ne veux pas être séparé de ma famille. Je veux rester avec eux. Je vois mon père qui me cherche des yeux.
Papa! Papa!
Ça y est, il m'a vu. Il a fait deux pas dans ma direction. Et là, il s'arrête pâle. Et il lève la main. Et il me fait un signe d'adieu. Et là, le garde qui m'a tiré en arrière me dit
« Mais qu'est-ce que tu fiches, toi? Va-t'en! Sauve ta peau !»
Je me retourne. Je vois là-bas les rues de la ville. Et aiguillonné par une peur animale, je me mets à courir. Et au pied d'un immeuble, j'entends un SS et un policier juif dire, en montrant le train qui part au loin, le train qui emporte ma famille.
« Tiens, regarde, ils partent griller. »
Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne vais pas retourner chez nous, les SS m'abattront. Et ils me renverront au centre de sélection. Où est-ce que je vais passer la nuit? Et là, arrive un policier juif. Il s'arrête pile en face de moi.
« Vladek, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ? »
Je le reconnais. C'est une vague relation à la moralité douteuse. Un type que jusque-là, on évitait. Je veux lui expliquer que mes parents, mes frères et mes sœurs viennent d'être emmenés par le train. Mais pas besoin. Il a compris.
Tu sais, Vladislav, c'est peut-être mieux comme ça, non? Le plus tôt sera le mieux. Vraiment, parce que... De toute façon, c'est ce qui nous attend tous, non? Bon, mais t'as qu'à venir chez nous. Ça nous remontera un peu le moral. Hein?
J'ai accepté. Le lendemain, je vais voir le fils du nouveau président du Conseil juif. Je l'ai croisé à l'époque où je me produisais dans les cafés du ghetto.
Dis-moi, Vladislav, j'ai une idée pour toi. Tu pourrais peut-être jouer au casino de l'unité d'extermination nazie. Tu sais, c'est un endroit où les SS et la Gestapo viennent se détendre le soir. Qu'en penses-tu?
Jouer pour les SS? Et pour la Gestapo? Ah, ce non, non. Je ne veux pas, je ne peux pas. Non. Ça a l'air de dépasser son entendement. Alors il m'inscrit sur la liste des ouvriers qui sont chargés de démolir l'enceinte de l'ancien grand ghetto, qui est maintenant vide, puisque tout le monde a été déporté. Le quartier va être réintégré dans la ville arienne. Et donc, nous voilà partis tous les matins par colonne de quatre, pour des journées monotones en vérité. J'ai la tête ailleurs. Où est ma famille? Dans quel camp est-ce qu'on les a conduits? Quelle peut être leur existence là-bas? Un jour, là où je travaille sur ce chantier, le directeur de l'Orchestre Philharmonique de Varsovie passe et me reconnaît. Il me serre dans ses bras et il me demande naturellement des nouvelles de ma famille.
Ma famille a été déportée par le train. Dites-moi, que pensez-vous qui va leur arriver maintenant?
Vladislav, il vaut mieux que vous le sachiez. Vous serez sur vos gardes, au moins. Vladislav, vous ne les reverrez plus. Jamais.
Moi, jusque-là, je les imaginais en vie.
confronté à de terribles difficultés, mais vivant. Et là, il vient de faire voler en éclats l'édifice trompeur que je me suis acharné à construire. Au bout d'une semaine environ, des affiches annoncent une nouvelle opération de réinstallation, de déportation. 300 000 d'entre nous sont déjà partis, il ne doit en rester que 25 000. Ce que les Allemands jugent absolument indispensable au fonctionnement local. Le premier jour, je suis sélectionné pour partir. Oh, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis résigné. Mais le lendemain, on me dit que je peux rester. On m'accorde un sursis. Je vais vivre alors. Mais combien de temps? Nous sommes encore 60 000 à Varsovie. Je risque de partir à la prochaine opération. Je travaille toujours sur le chantier de réhabilitation de l'ancien ghetto. Et tous les jours, quand nous quittons le ghetto, il y a des juifs qui se glissent parmi nous. Ils espèrent trouver refuge dans le quartier arien. Je dois dire que peu y parviennent. Mais un samedi, je décide moi aussi de m'évader. Je suis sur le chantier. Vers 5 heures, les ouvriers non-juifs ont terminé leur journée de travail. J'enfile mon manteau. Et pour la première fois en 3 ans, je retire mon brassard à l'étoile bleue. Et je me glisse par le portail avec eux. J'ai un plan. Mon ami Boguski m'attend à l'angle d'une rue. Je le suis, le bas du visage dissimulé dans mon col relevé. Il ne faut pas que je croise un Allemand au pied d'un réverbère. Il ne faut pas qu'il aperçoive mes traits, ses mythes. Et on arrive au 10 de la rue Nowakowski. C'est là que je vais me cacher. Dans un studio d'artiste, au 5e étage, où m'attend angoissé mon amie Janina Godlewska.
Ah, Vladislav, vous êtes là enfin. Je viens de me rendre compte de la date d'aujourd'hui, Vladislav. On est 13 février. On est le 13, Vladislav. Tu as eu de la chance.
Au bout de 2 semaines, je change de cachette grâce à mon ancien supérieur, le directeur musical de la radio polonaise. Il m'installe chez un ingénieur qui habite au rez-de-chaussée du même immeuble. Et chez eux, il y a un piano.
Est-ce que vous voudriez jouer quelque chose, Vladislav?
Ça fait 7 mois que je n'ai pas joué. Mes doigts sont gourds. Ils produisent des sons qui me semblent étranges, irritants même. J'ai changé de cachette plusieurs fois. J'ai eu peur tous les jours qu'on me découvre. J'ai eu faim et j'ai dû sortir pour acheter une miche de pain que j'ai mangée par petits morceaux pendant 10 jours. Et puis le 29 juillet 1943, on a frappé à ma porte. Une clé s'est introduite dans la serrure. Un homme que je ne connaissais pas est apparu à la porte.
Ah ah ! Vous êtes toujours vivant alors ?
Et le lendemain, celui qui m'hébergeait m'a présenté un certain Salas.
Vous verrez, il est très actif dans la résistance. C'est un homme qui est digne de toute confiance. À partir de maintenant, c'est lui qui va s'occuper de vous.
Drôle d'ange gardien, en vérité. Il est venu tous les 10 jours, les mains vides.
Je n'ai pas réussi à trouver assez d'argent pour vous acheter à manger, je suis désolé.
Alors je lui ai donné des objets à vendre. Il a prétendu qu'on les lui avait volés. Il lui arrivait de disparaître 2 semaines pendant lesquelles je restais prostré sur mon lit. Épuisé par les privations, résigné à la mort. Si la Gestapo m'avait surpris à ce stade, je n'aurais même pas été capable de me pendre. le 12 août vers midi, on frappe à ma porte. Et derrière la porte, une femme.
Ouvrez-moi immédiatement, ou j'appelle la police.
Je me dis que les habitants de l'immeuble m'ont découvert. Ils vont me livrer à la police. Alors je m'habille en hâte, et j'ouvre.
Ah ! Vous vivez donc dans cet appartement ? Vous n'êtes pas recensé ? Montrez-moi votre laissez-passer.
Je n'hésite pas. Je l'écarte et je me précipite dans l'escalier.
Fermez la porte en bas ! Ne le laissez pas s'échapper !
Heureusement, le concierge n'a pas compris. Je me retrouve dans la rue et je m'éloigne en courant. Me voilà en pleine rue avec une barbe hirsute, des cheveux qui n'ont pas été coupés depuis des mois, dans un costume tout élimé et froissé. Avec mes traits sémites. Et je marche. Je marche pendant une heure dans les rues les moins fréquentées. Et je vais sonner chez un ami. Après, j'ai un mal fou à me trouver une nouvelle cachette. La Gestapo écume la ville. Elle met les nerfs de tout le monde à vif. Quand je finis par trouver, mon état de santé se dégrade. Le foie. Début décembre, les douleurs sont si virulentes, je me retiens de hurler. Mes amis parviennent à trouver un médecin.
C'est une inflammation aiguë de la vésicule biliaire. Il vous faut un régime alimentaire très strict, hein? Très strict.
Et je reprends mon existence monotone. Je tiens à ce que ma vie soit aussi régulière que possible. Le matin, de 9 à 11, je travaille mon anglais, ensuite 2 heures de lecture, puis je prépare mon déjeuner, puis à nouveau la lecture jusqu'à la tombée de la nuit. Et les mois s'écoulent ainsi, jusqu'au 6 juin 1944. Ce jour-là, mon amie Elena apparaît chez moi, radieuse.
« Vladislav ! Les Américains et les Britanniques ont débarqué en Normandie. Ils ont enfoncé les lignes allemandes. Ils avancent, Vladislav, ils avancent !»
On apprend ensuite que la France est libérée, que l'Italie fasciste a capitulé, que l'armée rouge est massée à la frontière polonaise, qu'elle a déjà libéré Lublin. Et très vite, débutent les raids aériens soviétiques sur Varsovie. De plus en plus intenses. Je les vois de ma fenêtre. Et je vois les Allemands qui commencent à évacuer la ville. Et je me dis que je vais bientôt retrouver ma liberté. Le 29 juillet, mon ami Levitsky vient me prévenir.
Le soulèvement de Varsovie ne va pas tarder à commencer, Vladislav. On a pu acheter des armes à des soldats allemands paniqués.
Et le 1er août, vers 4 heures de l'après-midi, mes amis viennent me chercher.
Il faut que tu ailles te cacher. Le plus vite possible dans la cave de l'immeuble. Le soulèvement de Varsovie est imminent. Allez, je te laisse. Adieu, Vladek. Je sais pas si on se reverra.
Le soulèvement. Je n'arrive pas à y croire. Depuis le début, combien de rumeurs ont circulé? Alors je vais me placer à mon poste d'observation, à la fenêtre. Et je vois 3 jeunes gens avec un long paquet enveloppé dans du papier journal. Je les vois consulter leur montre. Je les vois lancer un regard à la ronde. Et je vois l'un d'eux poser son genou à terre et mettre son paquet à l'épaule. Et je vois le papier journal s'enflammer et laisser apparaître une mitraillette. Ces premiers coups de feu donnent le signal à tout le quartier. Varsovie se soulève. Moi, je veux y aller, bien sûr. Je veux aller me battre avec eux. Mais je suis enfermé dans cet appartement, de l'extérieur. Le lendemain, vers midi, mon amie Madame Levitska vient me ravitailler.
Je veux y aller. Enfin, je trouverai bien un moyen de passer entre les mailles. Je veux y aller. Écoutez, Vladislav, ça fait 1 an et demi que vous vivez enfermé entre 4 murs.
Vous n'aurez pas fait la moitié du chemin, vos jambes vous lâcheront. Restez ici. Nous finirons bien par en sortir. Et les jours passent. Je suis habitué depuis si longtemps à vivre coupé du reste de l'humanité. Comme je ne peux pas quitter ma tanière, je me résigne à écouter les conversations dans le couloir, l'oreille collée à la porte. Et j'entends que les combats font rage dans le centre, et que les résistants ne reçoivent pas de soutien de l'extérieur. J'entends que les nazis intensifient les représailles, que les miliciens ukrainiens ont laissé les occupants d'un immeuble en feu brûler jusqu'au dernier. Et puis un jour, l'oreille collée à la porte, je sens l'anxiété collective monter d'un cran dans l'immeuble. Je finis par comprendre que les Allemands ont encerclé notre bâtiment et qu'ils vont le détruire au canon.
Tout le monde dehors ! Tout le monde dehors !
Je vois, par la fenêtre, des soldats qui courent dans tous les sens avec des bidons à la main. Et bientôt, je sens une fumée noire monter dans l'escalier. Et je vois des SS se jeter dans l'immeuble, je les entends gravir les étages. Alors je sors sur le palier, j'agrippe l'échelle qui mène au grenier, je la tire, je referme la trappe.
Allez, c'est bon, hein? Il n'y a plus personne, on se tire.
Je retourne dans mon studio. L'immeuble est en train de brûler. C'est donc comme ça que je vais mourir. Je n'ai jamais pensé que je finirais brûlé vif. Je n'ai plus qu'un moyen. M'échapper. J'ai des barbituriques. Je les verse dans ma bouche. Je les avale. Et je sombre dans l'inconscience. Mais les barbituriques étaient moins puissants que je ne l'imaginais. Je me réveille vivant. Je me traîne jusqu'à la porte. La poignée est brûlante. L'étage en dessous a été ravagé par les flammes. Je gagne la rue par la sortie de service. Elle est jonchée de cadavres. Alors je me couche à plat ventre. Et je commence à ramper en direction de l'hôpital en me disant « Là-bas, je trouverai une nouvelle cachette. Et quand les Allemands passent, je fais le mort. Ça dure des heures. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ouvre une porte au hasard. Je me recroqueville dans un coin. Et je m'endors. » Je suis resté caché, comme ça, seul, changeant de cachette presque tous les jours, pendant des semaines et des semaines, sans rien manger, à boire de l'eau croupie, dans une solitude extrême, unique, seul, dans un immeuble abandonné, dans un quartier déserté, au milieu d'une ville en ruine. Septembre est passé comme ça. Et puis, octobre. J'ai passé tous ces jours allongés, à manger une biscotte avec une tasse d'eau et à relire dans ma tête toutes les partitions de piano que j'avais jouées dans ma vie, à me souvenir des livres que j'avais vus. Et puis un jour, j'étais parti à la recherche de nourriture dans les ruines.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ?
Un officier allemand, les bras croisés, en face de moi.
Faites ce que vous voulez de moi.
Je bougerai pas. Allez-y.
Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Eh bien, quel est votre métier, jeune homme?
Je suis pianiste.
Ah ah! Alors vous voulez bien venir avec moi?
Il m'emmène dans une pièce et il me montre un piano.
Jouez! Jouez quelque chose!
Quand je pose mes doigts sur le clavier, il tremble. 2 ans et demi que je n'ai pas joué.
«
Quand j'ai fini, j'ose lui demander.
Vous êtes allemand ?
Oui.
Oui, je suis allemand. Et honteux de l'être, hein, après tout ce qui s'est passé.
Il me suggère d'aller me cacher dans le grenier. Et il revient 3 jours plus tard.
Vous êtes là ?
Je suis là, oui. L'armée soviétique est de l'autre côté de la Vistule. Ils sont pratiquement à Varsovie. La guerre ne durera plus longtemps, maintenant. Il faut que vous teniez le coup, monsieur. Vous devez tenir le coup. Vous m'entendez ?
Il s'en va. Et il revient le 12 décembre, me porter du pain et un édredon bien chaud.
Je vais quitter Varsovie. L'offensive des Soviétiques est très proche, vous savez.
Ça veut dire qu'il y aura des combats de rue ? S'il y a des combats de rue, je pourrais pas en réchapper.
Écoutez bien. Si on a survécu à cet enfer depuis 5 ans, vous et moi, c'est que Dieu veut que nous restions en vie, non ? C'est ce qu'il faut croire. Adieu, monsieur.
Attendez. Attendez, je vous ai pas dit mon nom. S'il vous arrive quoi que ce soit, si je peux vous aider, retenez mon nom. Je m'appelle Spielmann, de Radio Pologne.
Noël est venu. Et puis le nouvel an 1945, mon 6e nouvel an depuis le début de la guerre. Le pire, le 14 janvier, l'artillerie soviétique commence à bombarder. Mais les nazis se sont retirés, sans se battre.
Les Allemands ont été vaincus. Varsovie est libérée. Je répète, les Allemands ont été vaincus. Varsovie est libérée.
J'ai dévalé tout de suite l'escalier et je suis tombé sur une femme soldat. Elle m'a pris pour un Allemand. Je suis polonais, tirez pas.
Après 2 semaines de repos, j'ai pu retrouver les rues de Varsovie en homme libre. Demain commence une nouvelle vie. Mais comment est-ce que je vais y arriver ? Il n'y a que de la mort derrière moi. Quelle énergie vitale je vais pouvoir tirer de cette destruction ?
Ce 2e épisode qui se termine par le tube de Chopin, le Nocturne opus 20, interprété par Vladislav Spielmann lui-même. Et une fois de plus, je vous invite à aller voir cet enregistrement sur YouTube, ne serait-ce que pour voir son visage. Alors Jean-Yves Potel, nous allons débriefer ce 2e chapitre avec vous comme nous l'avons fait hier. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'Europe centrale et en particulier de l'histoire de la Shoah. Ce qui marque évidemment dans ce 2e épisode, c'est la description sans complaisance du fonctionnement des rafles dans le ghetto. Elles ont été faites par des policiers juifs du ghetto et c'est une réalité qui sans doute est difficile à admettre. En fait, ce sont des juifs qui ont arrêté et déporté sur ordre des nazis les juifs du ghetto de Varsovie.
Oui, enfin, la police juive, ce qu'on appelle le service d'ordre juif, a été constituée dès que le ghetto a été mis en place. Et c'était effectivement des juifs. Et ils ont d'ailleurs participé à l'organisation de l'ordre dans le ghetto, mais aussi à ces grandes déportations. Il faut dire également que tous ces policiers juifs ont eux aussi été déportés. Ils ont tous été tués. Et leur chef a été abattu par un SS sur la Auschwitz place. Donc c'est une situation qui est la situation tragique qui était celle de la communauté juive et des juifs dans ce contexte-là. Il y avait un conseil juif qui avait été nommé par les Allemands, mais qui était là pour organiser une administration. Son chef, Tcherniakov, lorsqu'on lui a demandé d'organiser la déportation à raison de 6000 personnes par jour, s'est suicidé. Et une partie des membres du conseil sont partis dans les déportations tout de suite. Donc il faut voir la situation de ces policiers juifs comme une situation qui avait ce côté terriblement tragique qu'on trouve, y compris dans les camps, la manière dont les nazis utilisaient les juifs et leur désespoir pour essayer de les assassiner.
Donc, mais est-ce que c'est considéré dans la mémoire de ce qui s'est passé à Varsovie comme une part noire qu'on ne veut pas voir? Parce que c'est quelque chose qu'on raconte assez peu finalement, que les juifs ont eux-mêmes contribué à l'arrestation des juifs.
Non, enfin écoutez, il y a eu plusieurs époques. Dans l'immédiat après-guerre, il y avait effectivement parmi les rescapés, il y avait une haine très forte pour les policiers juifs et pour les membres des Judenrat. Ensuite, il y a eu le procès Eichmann. Et il y a eu toute une série de discussions à ce moment-là, et on a notamment, par exemple, Hannah Arendt, la grande philosophe, qui a fait un reportage sur ce procès Eichmann, s'en est pris terriblement et violemment aux policiers et aux Judenrat dans cette affaire. Et ensuite, la position des gens ont évolué, et on a essayé de voir plus précisément comment ça s'est passé, parce qu'on a commencé à comprendre le mécanisme d'extermination, comment il se faisait. Et la question des policiers juifs, c'était aussi la même question qui était posée pour ce qu'on appelle les sondeurs commando, c'est-à-dire les juifs qui étaient mobilisés pour organiser, pour pousser les autres dans les chambres à gaz, pour sortir les corps des chambres à gaz et ensuite les brûler ou les mettre dans des grandes fosses. Ces gens-là étaient utilisés par les nazis, mais ils étaient régulièrement changés parce qu'ils étaient régulièrement assassinés. C'est-à-dire, c'était le système, disons, un peu des pharaons. Et tous les mécanismes d'extermination tels qu'il a été mis en place avaient effectivement pour but et de tuer tous les juifs, mais en utilisant les juifs pour se tuer eux-mêmes. Et cette question...
Donc c'était un piège, en quelque sorte, qui leur était tendu.
Oui, c'était un piège. C'était l'essence de la politique nazie. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, c'était les nazis qui ont organisé des choses comme cela. Il y a beaucoup de cas d'histoire, par exemple, dans le grand ghetto de Lodz. Il y a eu toute une discussion avec parce que le Judenrat a collaboré avec les nazis ou pas, etc., etc. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme, comment ça s'est fait. Et ce qu'a été la Shoah. Et ce qui fait que la Shoah est un meurtre tout à fait particulier. Qu'on tue des hommes et des femmes et des enfants parce qu'ils sont juifs. Exclusivement parce qu'ils sont juifs. Et le mécanisme de mise à mort est un mécanisme qui va utiliser les juifs contre eux-mêmes. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que c'est... alors, on peut juger facilement, mais je crois que maintenant, y compris chez les rescapés, pour les quelques qui restent encore vivants, y compris dans les familles, y compris dans la communauté juive, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus nuancée de la responsabilité de ces policiers juifs. Beaucoup de ce qu'on appelle les miliciens lituaniens, ukrainiens, qui n'avaient rien à voir, eux, c'était des nazis qui...
Des sombres brutes, hein.
Par les nazis.
Les Lituaniens et les Ukrainiens se sont comportés, c'est ce que raconte Spielmann, comme de sombres brutes, qui
oui,
avaient
là,
en
avait,
plus
avait,
le plaisir des... de tuer.
Oui, mais là, c'était des nazis. C'est-à-dire, enfin, pas que des nazis, mais c'était des gens qui avaient adopté, qui soutenaient le régime allemand. C'était pas du tout... Ils n'étaient pas dans la même situation. Ils ont été formés par les Allemands. Certains avaient été, arrêtés. On leur avait mis dans le marché, venez travailler avec nous et vous serez saufs. Et ils acceptaient, mais c'était un choix, pas disons idéologique, mais c'était un choix qu'ils avaient fait. Tandis que c'est pas du tout le cas pour les juifs, qui étaient les policiers juifs, par exemple, ou même les juifs qui étaient dans les Sonderkommando. C'était un choix qui était imposé par la mécanique nazie. C'est autre chose, je pense.
Au passage, disons les choses, Spielmann lui-même a été accusé
par l'écrivaine Agatha Tuzinska d'avoir collaboré avec les nazis. Il y a eu un procès au début des années 2000 et cette femme a été condamnée pour diffamation. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle de Spielmann.
Non, d'abord, Agatha Tuzinska ne l'a pas accusé de collaboration. Il y a eu toute une discussion sur une histoire de l'attitude de Spielmann vis-à-vis d'une des chanteuses qui était dans le ghetto. Je crois que après, il y a eu des procès, etc., sur ce qu'elle a écrit dans son livre, qui est d'ailleurs un livre très intéressant, qui est un livre qui est sur Vera Gram, donc cette chanteuse, qui montre toutes ces ambiguïtés et qui discute un peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque parmi les artistes et dans le ghetto. Mais je ne crois pas qu'il faille dire que Spielmann était quoi que ce soit, il n'était pas collaborateur, rien du tout, tout ça, personne ne... Il a eu peut-être des attitudes ambiguës à tel ou tel moment, mais jamais, ça n'a jamais été un collaborateur avec les Allemands, et même avec, disons, des supplétifs des Allemands.
Jean-Yves Potel, est-ce qu'on sait ce qu'est devenu la famille de Spielmann? Ils sont tous morts.
Oui, ben, tous ceux qui étaient vivants pendant la guerre, oui, ils ont tous été tués. Il est le seul rescapé. Peut-être qu'après la guerre, il s'est marié et il a eu des enfants qui sont toujours vivants et qui ont gérer sa mémoire, qui ont joué un rôle très important. Il a un fils, notamment. Donc, il a refait sa vie. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes juifs qui ont, disons, survécu à tous ces grands massacres, souvent, bon, beaucoup sont tombés dans le désespoir, mais la plupart, en fait, ont essayé de reconstruire leur vie après et d'avoir une vision plus concrète de ce qui allait se passer, plus positive. Ça passait souvent par le mariage et par le fait d'avoir des enfants, de construire une famille, de reconstruire une famille, parce que sa famille avait été entièrement détruite par les nazis.
Alors ce qu'il raconte avec beaucoup de pudeur, c'est une des difficultés quand on veut écrire le récit à partir de ce livre, c'est la pudeur de cet homme, c'est sa solitude dans cet enfermement qui dure plus de 2 ans dans la partie aryenne, dit-il, de Varsovie. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens comme lui qui se sont cachés comme ça pendant des mois pour échapper aux rafles?
Oui, il y a eu, d'après les estimations des historiens aujourd'hui, lorsqu'il y a eu les grandes, ce qu'on a appelé l'action Reinhardt, c'est-à-dire la grande opération de RAF et de déportation vers les camps d'extermination, on pense qu'il y a à peu près 200-250 000 juifs qui ont survécu à ces opérations. Et ces 200-250 000 personnes, sur tout le territoire polonais, mais beaucoup autour de Varsovie et à Varsovie, on n'avait pas d'autre solution que de se cacher. Alors il y avait deux façons de se cacher, soit on se cachait avec des papiers à rien, entre guillemets, et on se faisait passer pour un Polonais non-juif, mais pour cela il fallait être jeune, plutôt une femme, avoir un physique qui ne correspondait pas au physique du juif selon les nazis, et ne pas être reconnaissable par par des amis antisémites d'autre part. Donc c'est ce qu'on appelait les gens qui étaient au-dessus. Et les autres personnes se cacher comme Spielmann s'est caché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé un an dans un placard. Beaucoup de gens se sont cachés comme ça. Quel était leur danger? Ils avaient deux dangers. On les voit d'ailleurs bien dans le film de Polanski et dans le livre aussi, il le dit. Le premier danger, c'est évidemment que les Allemands les trouvent. Mais la plupart du temps, il y avait peu d'Allemands. Les Allemands, ils passaient par les États partout. Ils étaient surtout avec la guerre, le front de l'Est, etc. Et le deuxième danger, c'était le danger d'être dénoncé par des gens qui le faisaient par antisémitisme, tout simplement parce qu'ils avaient peur. Et il y a beaucoup de gens qui ont été dénoncés, qui ont été abandonnés. Et on estime que sur les 250 000 juifs, qui à peu près, c'est des estimations, hein, c'est des ordres de grandeur, qui ont survécu donc aux grandes rafles, on estime qu'à peine 40 ou 50 000 étaient encore vivants en 1945. Et la plupart sont morts de froid et de faim, soit ont été dénoncés. Et beaucoup ont été dénoncés. Il y a des études très détaillées qui ont été faites dans région par région. On sait combien de gens ont été tués, ici 100, ici 200, etc. Et c'était une situation extrêmement difficile pour ces gens qui réussissaient. Ils ne pouvaient pas, disons, en fait, se cacher tout seuls. Et on le voit d'ailleurs dans le cas de Spielmann. Il était aidé par des amis qui, plus ou moins bien intentionnés, pour certains, il y en avait un ou deux qui étaient des gens qui faisaient ça pour l'argent. Mais on estime en général qu'il faut avoir au moins une dizaine, sinon une quinzaine de Polonais non-juifs pour sauver un juif. C'était très difficile, il fallait passer d'un endroit à l'autre, il fallait, bon, comme on le voit très bien dans le récit de Spielmann. Et donc, vous avez là une situation qui fait que le cas de Spielmann est tout à fait typique de ce qui est arrivé à ces juges qui se sont cachés. C'est pas un cas à part, c'est le cas de tous ceux qui se sont cachés, qui ne pouvaient pas se faire passer pour des non-juifs.
C'est officiellement qui lui sauve la vie dans les derniers mois et qui dit sa honte de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on a su qui il était ? Est-ce qu'il a su qui il était ? Est-ce qu'il a eu l'occasion de le revoir ?
Oui, le revoir non, mais il a su qui il était, puisque il a été reconnu d'ailleurs par un de ses amis qui était musicien dans un camp, parce qu'après il s'est fait arrêter, bon, il a été prisonnier de guerre par les soviétiques, et comme les prisonniers de guerre soviétiques, les Allemands prisonniers de guerre par les soviétiques ont été extrêmement mal traités. Il faut dire qu'avant les Allemands avaient tué plus de 2,5 millions de juifs, pas de juifs, de prisonniers de guerre allemands. Il a été reconnu, il a essayé de faire quelque chose.
Citer le nom de Spielmann pour se sauver. Hein.
Oui, c'est ça. Il a dit qu'il était là. Bon, Spielmann l'a appris tardivement, enfin, deux, trois ans après. Il y a par un imbroglio qui est assez complexe, où un de ses amis, d'un autre ami, en fait, ont découvert qui il était, ont pris contact avec sa femme, qui était en Allemagne, et ils ont essayé de le sauver. Ils sont allés très loin, parce que Spielmann a essayé d'intervenir auprès du chef, disons, de la police politique communiste polonaise, proche évidemment de Staline, Jakub Bermann, qui était d'ailleurs un juif lui-même, et qui a essayé d'intervenir auprès de lui pour qu'on sauve cet Allemand. Et ça n'a pas été possible. Il a dit clairement que les soviétiques n'accepteraient jamais. Et d'ailleurs, cet Allemand a sauvé d'autres personnes. C'était un catholique pratiquant. Il a été d'ailleurs ensuite reconnu, grâce à Spielmann et à d'autres, il a été reconnu par Yad Vashem comme juste parmi les nations pour avoir sauvé des Juifs.
Ce qui est un destin pas banal pour un nazi. Je vous remercie beaucoup, Jean-Yves Potel, d'avoir accepté de débriefer ce récit en deux épisodes que vous trouvez désormais sur votre application de podcast et qui sans doute donnera lieu dans les jours qui viennent, probablement ce week-end, à la diffusion d'un podcast qui sera constitué de la totalité des deux épisodes mis bout à bout.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.